Habemus Papam.
La Première Guerre mondiale vient d'éclater lorsque Giacomo della Chiesa est élu sur le trône de Saint-Pierre en septembre 1914. L'historien Jean-Dominique Durand nous parle de celui qui deviendra Benoît XV.
Benoît XV, qui s'appelait Giacomo della Chiesa, est issu d'une antique famille de la noblesse génoise. Il a eu une formation juridique plutôt, docteur en droit du reste, et formé à Rome au collège Capranica. Et puis ensuite, il s'est tourné vers la diplomatie en entrant à l'Académie des nobles ecclésiastiques, qui préparait notamment aux carrières diplomatiques. Lorsqu'il est élu pape, alors même que la guerre avait commencé, le 3 septembre 1914, les cardinaux ont véritablement élu un diplomate, en espérant qu'il pourrait peser sur les événements qui étaient déjà en cours.
Très rapidement, le nouveau pape va mettre en place des services d'assistance importants, comme l'explique François-Jean Couviac, spécialiste de son pontificat.
Le Saint-Siège avait mis l'accent dans les premières années du conflit sur l'assistance aux prisonniers de guerre, sur l'acheminement des correspondances et la fondation d'œuvres de secours, de charité, de miséricorde et d'entraide. Et pour ce faire, le Saint-Siège mobilisait les épiscopats, mais aussi les ordres religieux dans toute l'Europe.
Mais ce pape diplomate va aussi tenter des actions pour la paix, actions qui seront peu appréciées par les acteurs du conflit, comme l'explique Jean-Dominique Durand.
Incontestablement, son action en faveur de la paix n'a rencontré qu'incompréhension auprès des différents belligérants, dans les deux camps. Il a multiplié les interventions, les notes diplomatiques, notamment la fameuse note diplomatique du 1er août 1917. Ce qu'il a récolté, ça a été de se faire traiter de pape Bosch en France et de pape français en Allemagne. Donc l'incompréhension totale est l'échec, il faut bien le dire.
Ce n'est que depuis peu que les historiens se montrent moins durs avec Benoît XV. François-Jean Couviac.
L'historiographie, c'est vrai, a souvent été extrêmement critique envers ce pape, un pape dont on stigmatisait l'échec vis-à-vis du conflit mondial. Cela étant, il est probable que cette accusation était reliée à, si l'on peut dire, une atmosphère générale de la perception du Saint-Siège à cette période, et notamment des derniers soubresauts de la crise moderniste. Aujourd'hui, l'historiographie est beaucoup plus nuancée. Benoît XV est davantage perçu aujourd'hui comme un précurseur.
Et c'est à long terme que l'action de Benoît XV aura eu le plus d'effet.
Il a semé, et après coup, après la guerre, dans de nombreux milieux, y compris dans les milieux détachés de l'Église catholique, on s'est rendu compte que devant la catastrophe absolument effroyable qu'a été cette Première Guerre mondiale dans tous les domaines, on s'est rendu compte que le pape avait eu raison. Et on a pris conscience, hélas un peu tard, qu'on aurait peut-être mieux fait d'écouter la parole de celui qui voulait être tout simplement le père de tous, le garant d'une paix juste et équilibrée entre les belligérants et le retour à un équilibre général en Europe. Je crois que c'est cela qu'il faut retenir de Benoît XV. Certes, un échec sur le moment, mais il a semé. Je crois qu'il a semé aussi beaucoup dans les esprits catholiques, car il ne faut pas oublier que les catholiques ont largement contribué au nationalisme, à la montée des nationalismes avant 1914 et pendant la guerre. Ils ont eux-mêmes refusé complètement, absolument, d'écouter les appels à la paix du pape Benoît XV. Mais après la Première Guerre mondiale, les idées qu'il a développées, les convictions qu'il a mises en œuvre, le fait qu'on ne peut pas être chrétien si on n'est pas favorable à la paix, le fait de dire que l'Évangile a des conséquences sur le plan international, sur le plan des relations entre les peuples, tout cela a fait petit à petit son chemin. Et après la Première Guerre mondiale, des chrétiens, je pense par exemple en France à Marc Sangnier, en Allemagne à Konrad Adenauer et bien d'autres, se sont engagés dans ce chemin de paix, dans ce chemin de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et il me semble que c'est un fruit de ce qu'il a pu dire.
De fait, Joseph Ratzinger a choisi de rendre hommage, notamment à ce prédécesseur, en choisissant, comme nom, celui de Benoît XVI. Nous l'écoutons lors de sa première audience générale, le 27 avril 2005.
J'ai choisi le nom de Benoît en référence à Benoît XV, qui a guidé l'Église dans la période difficile de la Première Guerre mondiale. Sur ses traces, je désire participer à la réconciliation et à l'harmonie entre les hommes et entre les peuples.
Malgré la guerre, le pontificat de Benoît XV aura été très important dans plusieurs domaines. Jean-Dominique Durand.
Il a mis en œuvre le code de droit canon. Il a promulgué en 1917 le code de droit canon qui avait été préparé par son prédécesseur, par Pie X. Mais il a conduit à terme, il a promulgué, donc il a rassemblé dans un seul volume l'ensemble des règles canoniques qui se succédaient depuis longtemps, depuis des siècles, et qui finissaient parfois par entrer en contradiction les unes par rapport aux autres. Et puis sur le plan des missions aussi, il a joué un rôle très important pour l'action missionnaire, notamment en publiant en 1919 une encyclique fondamentale qui s'intitule Maximum Illud, pour appeler les missionnaires à se séparer des logiques des puissances coloniales, pour rappeler aux missionnaires qu'ils sont au service de l'Église universelle et non pas au service des puissances coloniales.
C'était les historiens Jean-Dominique Durand et François Jankowiak qui nous parlaient de Benoît XV. Thank you.